Édouard Chouret, Les Grands Initiés, Livre 6, Pythagore. Quatrième degré, Épiphanie, l'adepte, la femme initiée, l'amour et le mariage. Nous venons d'atteindre avec Pythagore le sommet de l'initiation antique. Sur cette cime, la terre apparaît noyée d'ombre comme un astre mourant. De là s'ouvrent les sidérales perspectives et se déroule comme un ensemble merveilleux la vue d'en haut, l'épiphanie de l'univers. Mais le but de l'enseignement n'était pas d'absorber l'homme dans la contemplation ou dans l'extase. Le maître avait promené ses disciples dans les régions incommensurables du cosmos. Il les avait plongés dans les gouffres de l'invisible. De l'effrayant voyage, les vrais initiés devaient revenir sur la terre meilleurs, plus forts et mieux trempés pour les épreuves de la vie. À l'initiation de l'intelligence devait succéder celle de la volonté, la plus difficile de toutes, car il s'agissait maintenant pour le disciple de faire descendre la vérité dans les profondeurs de son être, de la mettre en œuvre dans la pratique de la vie. Pour atteindre cet idéal, il fallait, selon Pythagore, réunir trois perfections. Réaliser la vérité dans l'intelligence, la vertu dans l'âme, la pureté dans le corps. Une hygiène savante, une continence mesurée, devait maintenir la pureté corporelle. Elle était requise, non comme but, mais comme moyen. Tout excès corporel laisse une trace et comme une souillure dans le corps astral, organisme vivant de l'âme et par suite dans l'esprit. Car le corps astral concourt à tous les actes du corps matériel. C'est même lui qui les accomplit. Le corps matériel n'étant sans lui qu'une masse inerte. Il faut donc que le corps soit pur pour que l'âme le soit aussi. Il faut ensuite que l'âme, sans cesse éclairée par l'intelligence, acquiert le courage, l'abnégation, le dévouement et la foi, en un mot la vertu, et en fasse une seconde nature qui se substitue à la première. Il faut, enfin, que l'intellect atteigne la sagesse par la science, de telle sorte qu'il sache distinguer en tout le bien et le mal, et voir Dieu dans le plus petit des êtres comme dans l'ensemble des mondes. À cette hauteur, l'homme devient adepte, et s'il possède une énergie suffisante, il entre en possession de facultés et de pouvoirs nouveaux. L'essence interne de l'âme s'ouvre, la volonté rayonne dans les autres. Son magnétisme corporel pénétré des effluves de son âme astrale, électrisé par sa volonté, acquiert une puissance en apparence miraculeuse. Parfois, il guérit les malades par l'imposition des mains ou par sa seule présence. Souvent, il pénètre les pensées des hommes par le seul regard. Quelquefois, à l'état de veille, il voit des événements qui se produisent au loin. Il agit à distance par la concentration de la pensée et de la volonté sur les personnes qui lui sont attachées par des liens de sympathie personnelle et leur fait apparaître son image à distance, comme si son corps astral pouvait se transporter hors de son corps matériel. L'apparition des mourants ou des morts aux amis est exactement le même phénomène. Seulement, l'apparition que le mourant ou l'âme du mort produit généralement par un désir inconscient dans l'agonie ou dans la seconde mort, l'adepte la produit en pleine santé et en pleine conscience. Toutefois, il ne le peut que pendant son sommeil, et presque toujours pendant un sommeil léthargique. Enfin, l'adepte se sent comme entouré et protégé par des êtres invisibles, supérieurs et lumineux, qui lui prêtent leur force et l'aident dans sa mission. Rares sont les adeptes, plus rares encore ceux qui atteignent cette puissance. La Grèce n'en connut que trois. Orphée, à l'aurore de l'hellénisme, Pythagore, à son apogée, Apollonius du Tyale, à son dernier déclin. Orphée fut le grand inspiré et le grand initiateur de la religion grecque. Pythagore, l'organisateur de la science ésotérique et de la philosophie des écoles. Apollonius, le stoïcien moralisateur et le magicien populaire de la décadence. Mais en tous trois, malgré les degrés et à travers les nuances, brille le rayon divin. L'esprit passionné pour le salut des âmes, l'indomptable énergie revêtue de mansuétude et de sérénité. Mais n'approchez pas trop de ces grands fronts calmes. Ils brûlent en silence. On sent dessous la fournaise d'une volonté ardente mais toujours contenue. Pythagore nous représente donc un adepte de premier ordre, et cela avec l'esprit scientifique et la formule philosophique qui se rapproche le plus de l'esprit moderne. Mais lui-même ne pouvait ni ne prétendait faire des adeptes parfaits de ses disciples. Une grande époque a toujours un grand inspirateur à son origine. Ses disciples et les élèves de ses disciples forment la chaîne aimantée et répandent de sa pensée dans le monde. Au quatrième degré de l'initiation, Pythagore se contentait donc d'enseigner à ses fidèles les applications de sa doctrine à la vie. Car l'épiphanie, la vue d'en haut, donnait un ensemble de vues profondes et régénératrices sur les choses terrestres. L'origine du bien et du mal demeure un mystère incompréhensible pour qui ne s'est pas rendu compte de l'origine et de la fin des choses. Une morale qui n'envisage pas les suprêmes destinées de l'homme ne sera qu'utilitaire et très imparfaite. De plus, la liberté humaine n'existe pas de fait pour ceux qui se sentent toujours esclaves de leur passion. Et il n'existe pas de droit pour ceux qui ne croient ni à l'âme, ni à Dieu, et pour qui la vie est un éclair entre deux néants. Les premiers vivent dans la servitude de l'âme enchaînée aux passions. Les seconds, dans la servitude de l'intelligence bornée au monde physique. Il n'en est pas de même pour l'homme religieux, ni pour le vrai philosophe, à plus forte raison pour le théosophe initié qui réalise la vérité dans la trinité de son être et dans l'unité de sa volonté. Pour comprendre l'origine du bien et du mal, l'initié regarde les trois mondes avec l'œil de l'esprit. Il voit le monde ténébreux de la matière et de l'animalité où domine l'inéluctable destin. Il voit le monde lumineux de l'esprit qui, pour nous, est le monde invisible, l'immense hiérarchie des âmes affranchies où règne la loi divine et qui sont elles-mêmes la providence en acte. Entre les deux, il voit dans un clair-obscur l'humanité qui plonge par la base dans le monde naturel et touche par ses sommets au monde divin. Elle a pour génie la liberté, car au moment où l'homme perçoit la vérité et l'erreur, il est libre de choisir de s'adjoindre à la Providence en accomplissant la vérité ou de tomber sous la loi du destin en suivant l'erreur. L'acte de la volonté, joint à l'acte intellectuel, n'est qu'un point mathématique, mais de ce point jaillit l'univers spirituel. Tout esprit sent, partiellement, par l'instinct, ce que le théosophe comprend totalement par l'intellect, à savoir que le mal est ce qui fait descendre l'homme vers la fatalité de la matière, que le bien est ce qui le fait monter vers la loi divine de l'esprit. Sa vraie destinée est de monter toujours plus haut et de son propre effort. Mais pour cela, il faut qu'il soit libre aussi de redescendre au plus bas. Le cercle de la liberté s'élargit jusqu'à l'infiniment grand à mesure qu'on monte. Il se rapetisse jusqu'à l'infiniment petit à mesure qu'on descend. Plus on monte et plus on devient libre. Car plus on entre dans la lumière et plus on acquiert de force pour le bien. Plus on descend et plus on devient esclave. Car chaque chute dans le mal diminue l'intelligence du vrai et la capacité du bien. Le destin règne donc sur le passé, la liberté sur l'avenir et la providence sur les deux, c'est-à-dire sur le présent toujours existant qu'on peut nommer l'éternité. De l'action combinée du destin, de la liberté et de la providence, ressortent les destinées innombrables, enfer et paradis des âmes. Le mal, étant en désaccord avec la loi divine, n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celle de l'homme, et n'a qu'une existence relative, apparente et transitoire. Le bien, étant en accord avec la loi divine, existe seul réellement et éternellement. Ni les prêtres de Delphes ou d'Éleusis, ni les philosophes initiés ne voulurent jamais révéler ces profondes idées au peuple qui aurait pu les comprendre de travers ou en abuser. Dans les mystères, on représentait symboliquement cette doctrine par le morcellement de Dionysos, mais en couvrant d'un voile impénétrable aux profanes ce qu'on appelait les souffrances de Dieu. Les plus grandes discussions religieuses et philosophiques roulent sur la question de l'origine du bien et du mal. Nous venons de voir que la doctrine ésotérique en possède la clé dans ses arcanes. Il est une autre question capitale d'où dépend le problème social et politique, celle de l'inégalité des conditions humaines. Le spectacle du mal et de la douleur a en lui-même quelque chose d'effrayant. On peut ajouter que leur distribution, en apparence arbitraire et injuste, est l'origine de toutes les haines, de toutes les révoltes, de toutes les négations. Ici encore, la doctrine profonde apporte dans nos ténèbres terrestres sa lumière souveraine de paix et d'espérance. La diversité des âmes, des conditions, des destinées ne peut se justifier en effet que par la pluralité des existences et par la doctrine de la réincarnation. Si l'homme naît pour la première fois dans cette vie, comment expliquer les mots sans nombre qui paraissent tomber au hasard sur lui? Comment admettre qu'il y a une éternelle justice, puisque les uns naissent dans une condition qui entraîne fatalement la misère et l'humiliation, tandis que d'autres naissent fortunés et vivent heureux? Mais s'il est vrai que nous avons vécu d'autres vies, que nous en vivrons d'autres après la mort, qu'à travers toutes ces existences, règne la loi de récurrence et de répercussion. Alors, les différences d'âme, de condition, de destinée ne seront que les effets des vies antérieures et les applications multiples de cette loi. Les différences de conditions proviennent d'un emploi inégal de la liberté dans les vies précédentes et les différences intellectuelles de ce que les hommes qui traversent la Terre en un siècle appartiennent à des degrés d'évolution extrêmement divers qui s'échelonnent depuis la demi-animalité des pauvres races en régression jusqu'aux états angéliques des saints et jusqu'à la royauté divine du génie. En réalité, la Terre ressemble à un navire, et nous tous qui l'habitons, à des voyageurs qui viennent de pays lointains et se dispersent par étapes à tous les points de l'horizon. La doctrine de la réincarnation donne une raison d'être, selon la justice et la logique éternelle, aux maux les plus effroyables, comme aux bonheurs les plus envieux. L'idiot nous paraîtra compréhensible si nous songeons que son hébétement, dont il a une demi-conscience et dont il souffre, est la punition d'un emploi criminel de l'intelligence dans une autre vie. Toutes les nuances de souffrance, physiques ou morales, de bonheur et de malheur, dans leurs variétés innombrables, nous apparaîtront comme les efflorescences naturelles et savamment graduées des instincts et des actions, des fautes et des vertus d'un long passé, car l'âme conserve dans ses profondeurs occultes tout ce qu'elle accumule dans ses diverses existences. Selon l'heure et l'influence, les couches anciennes reparaissent et disparaissent, et la destinée, c'est-à-dire les esprits qui la dirigent, proportionne son genre de réincarnation à son rang comme à sa qualité. L'Isis exprime cette vérité sous un voile dans ses vers dorés. Tu verras que les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. Loin d'affaiblir le sentiment de la fraternité et de la solidarité humaine, cette doctrine ne peut que la fortifier. Nous devons à tous aide, sympathie et charité, car nous sommes tous de même race, quoique parvenus à des degrés divers. Toute souffrance est sacrée, car la douleur est le creuset des âmes. Toute sympathie est divine, car elle nous fait sentir, comme par un effluve magnétique, la chaîne invisible qui relie tous les mondes. La vertu de la douleur est la raison du génie. Oui, sage et saint, prophète et divin créateur, reluisent d'une plus émouvante beauté pour ceux qui savent qu'eux aussi sont sortis de l'évolution universelle. Cette force qui nous étonne, combien de vies, combien de victoires a-t-il fallu pour la conquérir? Cette lumière innée du génie, de quels cieux déjà traversés lui vient-elle? Nous ne le savons pas, mais ces vies ont été et ces cieux existent. Elle ne s'est donc pas trompée la conscience des peuples. Ils n'ont pas menti, les prophètes, lorsqu'ils ont appelé ces hommes les fils de Dieu, les envoyés du ciel profond. Car leur mission est voulue par l'éternelle vérité, des légions invisibles les protègent, et le Verbe vivant parle en eux. Il y a entre les hommes une diversité qui provient de l'essence primitive des individus. Il y en a une autre, nous venons de le dire, qui provient du degré d'évolution spirituelle qu'ils ont atteint. À ce dernier point de vue, on reconnaît que les hommes peuvent se ranger en quatre classes qui comprennent toutes les subdivisions et toutes les nuances. 1. Chez la grande majorité des hommes, la volonté agit surtout dans le corps. On peut les nommer les instinctifs. Ils sont propres non seulement aux travaux corporels, mais encore à l'exercice et au développement de leur intelligence dans le monde physique, par conséquent au commerce et à l'industrie. 2. Au second degré du développement humain, la volonté et par la suite la conscience résident dans l'âme, c'est-à-dire dans la sensibilité réactionnée par l'intelligence, qui constitue l'entendement. Ce sont les animiques ou les passionnels. Selon leur tempérament, ils sont propres à faire des hommes de guerre, des artistes ou des poètes. La grande majorité des hommes de lettres et des savants sont de cette espèce, car ils vivent dans les idées relatives, modifiées par les passions ou bornées par un horizon limité, sans être élevé jusqu'à l'idée pure et à l'universalité. 3. Dans une troisième classe d'hommes, beaucoup plus rare, la volonté a pris l'habitude d'agir principalement et souverainement dans l'intellect pur, de dégager l'intelligence dans sa fonction spéciale de la tyrannie des passions et des bornes de la matière, ce qui donne à toutes leurs conceptions un caractère d'universalité. Ce sont les intellectuels. Ces hommes font les héros martyrs de la patrie, les poètes de premier ordre, enfin et surtout, les vrais philosophes et les sages, ceux qui, selon Pythagore et Platon, devraient gouverner l'humanité. En ces hommes, la passion n'est pas éteinte, car sans elle, rien ne se fait. Elle constitue le feu et l'électricité dans le monde moral. Seulement chez eux, les passions sont devenues les servantes de l'intelligence, tandis que dans la catégorie précédente, l'intelligence est le plus souvent la servante des passions. 4. Le plus haut idéal humain est réalisé par une quatrième classe d'hommes qui, à la royauté de l'intelligence sur l'âme et sur l'instinct, ont ajouté celle de la volonté sur tout leur être. Par la domination et la possession de toutes leurs facultés, ils exercent la grande maîtrise. Ils ont réalisé l'unité dans la trinité humaine. Grâce à cette concentration merveilleuse qui ramasse toutes les puissances de la vie, leur volonté, en se projetant dans les autres, acquiert une force presque illimitée, une magie rayonnante, créatrice. Ces hommes ont porté divers noms dans l'histoire. Ce sont les hommes primordiaux, les adeptes, les grands initiés, génies sublimes, qui métamorphosent l'humanité. Ils sont tellement rares qu'on peut les compter dans l'histoire. La Providence les sème dans le temps à longs intervalles, comme les astres dans le ciel. Il est évident que cette dernière catégorie échappe à toute règle, à toute classification. Mais une constitution de la société humaine qui ne tient pas compte des trois premières catégories, qui ne fournit pas à chacune d'elles sa fonction normale et les moyens nécessaires de se développer, n'est qu'extérieure et non pas organique. Il est clair qu'à une époque primitive, qui remonte probablement au temps védique, les brahmanes de l'Inde fondèrent la division de la société en caste sur le principe ternaire. Mais avec le temps, cette division si juste et si féconde se changea en privilège sacerdotal et aristocratique. Le principe de la vocation et de l'initiation fit place à celui de l'hérédité, Les castes fermées finirent par se pétrifier et la décadence irrémédiable de l'Inde s'ensuivit. L'Égypte, qui conserva sur tous les pharaons la constitution ternaire avec les castes mobiles et ouvertes, le principe de l'initiation appliqué au sacerdoce, celui de l'examen à toutes les fonctions civiles et militaires, vécut 5 à 6 000 ans sans changer de constitution. Quant à la Grèce, son tempérament mobile la fit passer rapidement de l'aristocratie à la démocratie et de celle-ci à la tyrannie. Elle tourna dans ce cercle vicieux, comme un malade qui va de la fièvre à la léthargie pour revenir à la fièvre. Peut-être avait-elle besoin de cette excitation pour produire son œuvre sans pareille. La traduction de la sagesse profonde mais obscure de l'Orient en un langage clair et universel. La création du beau par l'art et la fondation de la science ouverte et raisonnée, succédant à l'initiation secrète et intuitive. Elle n'en dut pas moins au principe de l'initiation son organisation religieuse et ses plus hautes inspirations. Socialement et politiquement parlant, on peut dire qu'elle vécut toujours dans le provisoire et dans l'excessif. En sa qualité d'adepte, Pythagore avait compris du sommet de l'initiation les principes éternels qui régissent la société et poursuivait le plan d'une grande réforme selon ses vérités. Nous verrons tout à l'heure comment lui et son école firent naufrage dans les tempêtes de la démocratie. Des purs sommets de la doctrine, la vie des mondes se déroule selon le rythme de l'éternité. Splendide épiphanie. Mais au rayon magique du firmament dévoilé, la terre, l'humanité et la vie nous ouvrent aussi leur profondeur secrète. Il faut retrouver l'infiniment grand dans l'infiniment petit pour sentir la présence de Dieu. C'est ce qu'éprouvaient les disciples de Pythagore quand le maître leur montrait, pour couronner son enseignement, comment l'éternelle vérité se manifeste dans l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. La beauté des nombres sacrés qu'ils avaient entendus et contemplés dans l'infini, ils allaient la retrouver au cœur même de la vie, et Dieu rejaillissait pour eux du grand mystère des sexes et de l'amour. L'Antiquité avait compris une vérité capitale que les âges suivants ont trop méconnue. La femme, pour bien remplir ses fonctions d'épouse et de mère, a besoin d'un enseignement, d'une initiation spéciale. De là, l'initiation purement féminine, c'est-à-dire entièrement réservée aux femmes. Elle existait en Inde, dans les temps védiques, où la femme était prêtresse à l'autel domestique. En Égypte, elle remonte au mystère d'Isis. Orphée l'organisa en Grèce, jusqu'à l'extinction du paganisme, nous la voyons fleurir dans les mystères dionysiaques, ainsi que dans les temples de Junon, de Diane, de Minerve et de Cérès. Elle consistait en rites symboliques, en cérémonies, en fêtes nocturnes, puis dans un enseignement spécial donné par des prêtresses âgées ou par le grand prêtre, et qui avait trait aux choses les plus intimes de la vie conjugale. On donnait des conseils et des règles concernant les rapports des sexes, les époques de l'année ou du mois favorables aux conceptions heureuses. On donnait la plus grande importance à l'hygiène physique et morale de la femme pendant la grossesse, afin que l'œuvre sacrée, la création de l'enfant, s'accomplissent selon les lois divines. En un mot, on enseignait la science de la vie conjugale et l'art de la maternité. Ce dernier s'étendait bien au-delà de la naissance. Jusqu'à 7 ans, les enfants restaient dans le gynécée où le mari ne pénétrait pas sous la direction exclusive de la mère. La sage antiquité pensait que l'enfant est une plante délicate qui a besoin, pour ne pas s'atrophier, de la chaude atmosphère maternelle. Le père la déformerait. Il faut, pour l'épanouir, les baisers et les caresses de la mère. Il faut l'amour puissant, enveloppant de la femme, pour défendre des atteintes du dehors cette âme que la vie épouvante. C'est parce qu'elle accomplissait en pleine conscience ses hautes fonctions considérées comme divines par l'Antiquité que la femme était vraiment la prêtresse de la famille, la gardienne du feu sacré de la vie, la Vesta du foyer. L'initiation féminine peut donc être considérée comme la vraie raison de la beauté de la race, de la force des générations, de la durée des familles dans l'Antiquité grecque et romaine. En établissant une section pour les femmes dans son institut, Pythagore ne fit donc qu'épurer et approfondir ce qui existait avant lui. Les femmes initiées, par lui, recevaient avec les rites et les préceptes les principes suprêmes de leurs fonctions. Il donnait ainsi à celles qui en étaient dignes la conscience de leur rôle. Il leur révélait la transfiguration de l'amour dans le mariage parfait, qui est la pénétration de deux âmes au centre même de la vie et de la vérité. L'homme, dans sa force, n'est-il pas le représentant du principe de l'esprit créateur? La femme, dans toute sa puissance, ne personnifie-t-elle pas la nature dans sa force plastique, dans ses réalisations merveilleuses, terrestres et divines? Eh bien, que ces deux êtres parviennent à se pénétrer complètement, corps, âme, esprit. Ils formeront, à eux deux, un abrégé de l'univers. Mais pour croire à Dieu, la femme a besoin de le voir vivre dans l'homme. Et pour cela, il faut que l'homme soit initié. Lui seul est capable, par son intelligence profonde de la vie, par sa volonté créatrice, de féconder l'âme féminine, de la transformer par l'idéal divin. Et cet idéal, la femme aimée le lui renvoie multiplié dans ses pensées vibrantes, dans ses sensations subtiles, dans ses divinations profondes. Elle lui renvoie son image transfigurée par l'enthousiasme. Elle devient son idéal, car elle le réalise par la puissance de l'amour dans sa propre âme. Par elle, il devient vivant et visible. Il se fait chair et sang. Car si l'homme crée par le désir et la volonté, la femme, physiquement et spirituellement, génère par l'amour. Dans son rôle d'amante, d'épouse, de mère ou d'inspirée, elle n'est pas moins grande, et elle est plus divine encore que l'homme. Car aimer, c'est s'oublier. La femme qui s'oublie et qui s'abîme dans son amour est toujours sublime. Elle trouve dans cet anéantissement sa renaissance céleste, sa couronne de lumière et le rayonnement immortel de son être. L'amour règne en maître dans la littérature moderne depuis 2 siècles. Ce n'est pas l'amour purement sensuel qui s'allume à la beauté du corps comme dans les poètes antiques. Ce n'est pas non plus le culte fade d'un idéal abstrait et conventionnel comme au Moyen-Âge. Non, c'est l'amour à la fois sensuel et psychique qui, lâchée en toute liberté et en pleine fantaisie individuelle, se donne carrière. Le plus souvent, les deux sexes se font la guerre dans l'amour même. Révolte de la femme contre l'égoïsme et la brutalité de l'homme. Mépris de l'homme pour la fausseté et la vanité de la femme. Cris de la chair. Colères impuissantes des victimes de la volupté, des esclaves de la débauche. Au milieu de cela, des passions profondes, des attractions terribles, et d'autant plus puissantes qu'elles sont entravées par les conventions mondaines et les institutions sociales. De là, ces amours pleins d'orages, d'effondrements moraux, de catastrophes tragiques, sur lesquelles roulent presque exclusivement le roman et le drame moderne. On dirait que l'homme, fatigué, ne trouvant Dieu ni dans la science ni dans la religion, le cherche éperdument dans la femme. Et il fait bien. Mais ce n'est qu'à travers l'initiation aux grandes vérités qu'il le trouvera en elle et elle en lui. Entre ces âmes qui s'ignorent réciproquement et qui s'ignorent elles-mêmes, qui parfois se quittent en se maudissant, il y a comme une soif immense de se pénétrer et de trouver dans cette fusion le bonheur impossible. Malgré les aberrations et les débordements qui en résultent, cette recherche désespérée est nécessaire. Elle sort d'un divin inconscient. Elle sera un point vital pour la réédification de l'avenir. Car lorsque l'homme et la femme se seront trouvés eux-mêmes, et l'un l'autre par l'amour profond et par l'initiation, leur fusion sera la force rayonnante et créatrice par excellence. L'amour psychique, l'amour passion d'âme, n'est donc entré dans la littérature et par elle dans la conscience universelle que depuis peu. Mais il a sa source dans l'initiation antique. Si la littérature grecque le laisse à peine soupçonner, cela tient à ce qu'il était l'exception rarissime. Cela provient aussi du secret profond des mystères. Cependant, la tradition religieuse et philosophique a conservé la trace de la femme initiée. Derrière la poésie et la philosophie officielle, quelques figures de femmes apparaissent à demi voilées mais lumineuses. Nous connaissons déjà la pythonisse Théocléa qui inspira Pythagore. Plus tard viendra la prêtresse Corinne, rivale souvent heureuse de Pindare, qui fut lui-même le plus initié des lyriques grecs. Enfin, la mystérieuse Diotime apparaît au banquet de Platon pour donner la révélation suprême sur l'amour. À côté de ces rôles exceptionnels, la femme grecque exerça son véritable sacerdoce au foyer et dans le gynécée. Sa création à elle, ce furent justement ses héros, ses artistes, ses poètes, dont nous admirons les chants, les marbres et les actions sublimes. C'est elle qui les conçut dans le mystère de l'amour, qui les moula dans son sein avec le désir de la beauté, qui les fit éclore en les couvant sous ses ailes maternelles. Ajoutons que, pour l'homme et la femme vraiment initiés, la création de l'enfant a un sens infiniment plus beau, une portée plus grande que pour nous. Le père et la mère, sachant que l'âme de l'enfant préexiste à sa naissance terrestre, la conception devient un acte sacré, l'appel d'une âme à l'incarnation. Entre l'âme incarnée et la mère, il y a presque toujours un profond degré de similitude. Comme les femmes mauvaises et perverses attirent les esprits démoniaques, les mères tendres attire les divins esprits. Cette âme invisible qu'on attend, qui va venir et qui vient, si mystérieusement et si sûrement, n'est-elle pas chose divine? Sa naissance, son emprisonnement dans la chair sera chose douloureuse, car si entre elle et son ciel quitté un voile grossier s'interpose, si elle cesse de se souvenir, ah, elle n'en souffre pas moins. Et sainte et divine, elle attache de la mer, qui doit lui créer une demeure nouvelle, lui adoucir sa prison et lui faciliter l'épreuve. Ainsi, l'enseignement de Pythagore, qui avait commencé dans les profondeurs de l'absolu par la Trinité divine, finissait au centre de la vie par la Trinité humaine. Dans le Père, dans la Mère et dans l'Enfant, l'initié savait reconnaître maintenant l'esprit, l'âme et le cœur de l'univers vivant. Cette dernière initiation constituait pour lui le fondement de l'œuvre sociale conçue à la hauteur et dans toute la beauté de l'idéal, édifice où chaque initié devait apporter sa pierre.